Radio Vassivière est une radio associative, locale et non commerciale qui a connu de lourdes difficultés. Il y a eu en 2014 une bataille collective pour que la radio devienne, et en profondeur, pas que pour la forme, associative, avec le fonctionnement horizontal d'un collectif. Dans ce même temps de transformation, d'énormes dettes ont été mises au jour, laissées là par l'ancienne gouvernance de l'antenne. Le soutien et la volonté des auditeurs de cette radio locale a permis qu'elle survive. Les nouveaux administrateurs, bénévoles et salariés de l'association Radio Vassivière ont eu à faire face à une situation juridique, financière et humaine complexe et épuisante. Un collectif ne traverse pas une telle situation sans encombre, sans quelques tensions, sans quelques douleurs. Un jour, ce groupe a décidé de faire appel à Valeria Schiavone.
Dans la vie, dans l'évolution d'une association, de n'importe quelle autre organisation, il y a des moments où, apparemment, on est vraiment largué, comme si quelque chose de creux s'ouvrait et nous tirait vers le bas, malgré la bonne volonté qu'on reconnaît à d'autres qui sont avec nous dans cette situation. On n'y arrive pas. Ce que je fais avec les organisations est toujours de ne pas du tout être dans la partie creuse.
La partie creuse, comme elle dit, c'est le petit gouffre qui s'ouvre parfois. C'est l'impuissance, c'est l'impasse face au problème. Ça peut toucher une société entière, comme une personne ou un collectif. Sur le plateau de Mille Vaches, beaucoup de gens et d'associations font appel à Valeria. Parce que Valeria se préoccupe plutôt de plein. Son but, c'est redonner au groupe la conscience des ressources de chaque individu qu'il compose. Pour l'accompagnement de l'équipe de salariés et d'administrateurs de l'association Radio Vassivière, Valeria est venue à la radio. Aujourd'hui, c'est moi qui me déplace chez elle. Quand j'arrive, elle est en train de lire le texte qu'elle utilise beaucoup, à ce qu'elle me dit, pour préparer son cours intitulé « Société et population » qu'elle donne au DUT Carrière Sociale. Je découvre qu'elle est aussi professeure.
Donc là, il est question d'interculture vue à travers ces trois angles, donc intégration, interaction et relation, intégration, interaction, relation. Alors, par exemple, interaction, poiché, elle amène à la découverte des différences et des analogies entre les individus et les groupes et un riconoscimento di punti di vista diversi à travers l'échange, la comparaison. Provoca l'analisi e la decostruzione degli stereotipi e dei pregiudizi e la conscience des images réciproques, des étiquettes, des représentations. Considera il processo di incontro e di rimescolamento. Elle considère le processus de rencontre et de remélange, redistribution de la donne, comme le terrain privilégié de l'intervention d'éducation.
Elle me parle de choc culturel.
Ce n'est pas du tout la simple différence, la simple diversité entre cultures, ni quelque chose qui pourrait me contrarier chez l'autre de façon bien consciente. Ce qui amène à la richesse, c'est au début une difficulté qui vient toucher des parties sensibles à nous, mais qu'on n'a pas bien encore décodées. Donc on est surpris, on ne se sent plus trop à la hauteur, on ne sait pas comment faire. Je ressens une sorte de malaise. Je comprends que l'autre... est autant démunie que moi, et on ne sait pas trop quoi faire de ça. Alors que si on accepte de plonger un peu dans ces espaces-là qui au début se présentent comme une difficulté, il y a vraiment moyen de transformer cette matière en opportunité. Et l'interculture, par définition, ce n'est pas le dialogue entre une culture et l'autre. C'est cet espace entre, un peu comme un arc qu'on tendrait entre les deux parties, et dans cet espace entre, à partir d'une difficulté, on construit quelque chose de complètement différent qui n'était avant ni chez la position de l'un, ni chez la position de l'autre. C'est vraiment ça qui fait que dans cet arc, des couleurs différentes apparaissent. C'est la vraie richesse de l'interculture. Autrement, c'est juste de la diplomatie, apprendre à discuter, à ne pas se heurter.
Depuis le début de notre discussion, elle ponctue toutes ses phrases en martelant la table en bois de son salon. L'interculture, c'est du concret.
Et c'est vrai que cette approche-là, l'interculture, nourrit beaucoup aussi de mon approche plus générale quand j'accompagne les organisations, parce que je crois vraiment dans ce pilier fondamental de la diversité comme opportunité, mais qui au début, il faut quand même bien l'accepter comme quelque chose qui percute. Tant qu'on n'a pas eu le courage aussi de rester un peu dans cet espace-là, de le traverser un peu, c'est pas vrai qu'on peut voir la ressource. Ça reste très théorique.
Oui, il est temps de passer à la pratique. Je suis venue pour qu'elle partage son expérience. Je veux savoir quels sont ses outils. ceux justement qui permettent de partager la parole pour agir et transformer des situations, des collectifs, des systèmes. Je veux qu'elle me raconte le déroulé de ses accompagnements.
Ça dépend beaucoup du besoin. Si c'est, par exemple, ce que on pourrait appeler médiation, parce que quelque part, le prétexte a été un conflit, une difficulté relationnelle. Ce que j'essaye tout le temps de faire, c'est d'abord de donner de l'espace de véritable écoute aux personnes accueillies individuellement. Je ne les laisse pas juste parler, mais j'essaye de leur restituer quelque chose de ce qu'elles peuvent exprimer en termes, de toute façon, de valorisation de leur intention. Après, il y a un moment où les personnes dans la difficulté relationnelle, je les fais travailler ensemble, mais vraiment pas du tout sur les choses qui leur ont posé problème, mais plutôt sur comment je me perçois, qu'est-ce que je peux comprendre de moi dans certaines situations, à quelles autres ressources chez moi je peux faire appel plutôt que celles que je mets en place de façon presque automatique, surtout dans les situations de difficulté. Et au lieu de faire ça individuellement, on fait ça ensemble pour qu'en plus il y ait du retour réciproque. Ce qui amène les personnes à construire un lien de solidarité immédiat, sans besoin d'aller chercher dans la difficulté du début, mais naturellement, cet apport réciproque qu'elle s'offre va quelque part combler un peu ces creux, ces vides que la difficulté avait créés. Ils se regardent autrement, ils sont capables d'offrir un feedback et pas de mettre une critique, surtout pas un jugement. En général, dans ces rencontres-là précommunes, on n'aborde jamais directement le conflit, mais le conflit en est transformé.
Pour Valéria, tout accompagnement doit aller dans la direction de l'intérêt de chacun pour ce que fait le collectif. C'est là que se trouve l'opportunité d'améliorer les relations interpersonnelles dans le groupe. Le jugement n'amène aucun potentiel. Bloc juge et jugé. Alors que questionner ce que vit l'autre transforme pour tous la difficulté en terrain d'évolution.
Et la troisième partie est toujours une partie où dans le collectif, on intègre tout dans une dynamique très similaire. C'est-à-dire, allons voir quelles sont les couleurs de notre groupe. Quelle est la qualité originale de notre groupe? En quoi la beauté que nous sommes, de toute façon, va pouvoir modifier quelque chose, faire évoluer les difficultés, les symptômes que notre système exprime en ce moment? Les personnes qui, dans une organisation, peuvent expérimenter des difficultés relationnelles ne sont que les porte-parole d'une expression du système en entier. Ça va bien au-delà du thème et du sujet, du conflit. C'est tout simplement qu'un système bouge. Par moment, du coup, ça fait mal. On se prend des coins de table en bougeant. Et du coup, ça se concentre sur une personne qui dit aïe avant les autres. Ou d'autres qui sentent avant les autres l'exigence d'exprimer quelque chose. Mais c'est bien toujours le système qui est concerné.
Sur le plateau de Mille Vaches, les associations qui font appel à Valéria ont en commun de vouloir inventer leur système. Valéria donne les outils pour porter au jour le fonctionnement que le collectif souhaite pour lui-même. Elle donne au groupe la puissance de s'auto-gouverner dans la direction qui leur convient.
De toute façon, je pense que l'individu en tant que tel, singulièrement pris, moi, il ne me parle pas trop. Je me considère au niveau du territoire, au niveau de la société de façon plus générale, dans des systèmes. Et je trouve qu'une des façons les plus justes pour moi de devenir co-responsable des choses qu'on a à vivre ensemble, c'est de nous accompagner quelque part réciproquement, chacun avec ses compétences, dans les prises de conscience et dans ce que moi j'appelle le counseling. Pas conseil, mais vraiment capacité d'amener vers le haut. C'est un mot latin qui vient de cum sol, qui signifie vraiment monter vers le haut ensemble, et donc nous rendre capables d'être responsables, c'est-à-dire capables de nous donner nos propres réponses, l'habilité à répondre, mais à soi-même. Et pour moi, répondre à soi-même signifie devenir capable dans n'importe quel système, dans n'importe quel collectif, d'être entièrement à sa place, de faire sa part, d'être du coup dans la démarche participative.
Il y a quand même quelque chose d'éminemment politique dans sa démarche, je lui dis.
À l'origine, c'est vraiment plus cette histoire de responsabilité, je dirais, personnelle. Et immédiatement, pour moi, quand je dis personnelle, ça signifie citoyenne. Mmh. Pour moi, c'est vraiment le même endroit. Donc, bien sûr, ça peut aider, nourrir tout débat et toute prise de position politique. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que je suis à l'intérieur d'un groupe qui s'appelle Pace, en italien, ça veut dire paix, et avec lequel tous ces outils-là qu'on essaie de faire évoluer, que j'amène, pas que pour la gestion de conflits, mais bien aussi pour les démarches participatives, on les insère dans le contexte de ce qu'on appelle l'éducation à la paix. En Italie, l'éducation à la paix est objet, par exemple, de troisième cycle universitaire, donc ce n'est pas la paix dans le sens de comme ça, d'un concept un peu rhétorique, un peu mielleux, c'est la cohésion sociale, c'est la mondialité, c'est la conscience justement de tout ce qu'on peut faire pour amener des vraies transitions collectives.
Ce que m'a appris Valéria, c'est que les transitions collectives ne se font pas sans que les individus opèrent en même temps des transitions en eux-mêmes. Olivier Corchia, le fondateur du mouvement Pace, est aussi le créateur de la méthode Persona que Valéria utilise dans ses accompagnements. La méthode détourne les archétypes représentés par les masques de la Commedia dell'arte.
Olivier a vraiment révisité cet archétype et pour donner à la méthode une puissance toute particulière, celle qui vient du fait d'aller chercher dans l'universel humain, mais incarné par chaque individu.
Zanni, Pantalone, El Dottore, Pulcinella, Tartaglia, El Capitano et Arlecchino sont tous porteurs de qualité.
Tout discours que j'essaye de porter, justement, le masque m'aide à l'habiter, donc à l'agir. Pour moi, agir, une parole signifie vraiment l'habiter profondément. C'est toujours Valéria qui porte ce masque avec l'intention du moment. L'archétype est toujours reconnaissable, mais le discours est toujours différent parce que ça dépend beaucoup des gens que j'ai en face de moi.
Quand elle présente les masques, Valéria parle des parts d'ombre et de lumière de chaque archétype. Il ne s'agit pas de qualités et de défauts.
Par exemple, l'archétype du lien, de la fraternité, de la convivialité, du soin. Quand il n'est pas complètement assumé chez nous, peut devenir juste un besoin de reconnaissance. Et au lieu de devenir la lumière qu'il pourrait être, c'est-à-dire capacité d'accueillir l'autre, capacité de créer de la convivialité, devient plutôt demande et souffrance. Cette obscurité-là n'est pas de la négativité, mais juste un potentiel qui demande à devenir complètement visible à soi-même et aux autres. Une fois qu'il est visible, forcément, on l'utilise à bon escient.
Ce que m'a fait comprendre Valéria, c'est que ce qu'on appelle un défaut, c'est une qualité inexploitée. Une qualité qui ne s'est pas révélée à nous-mêmes. À la place, il y a un creux, un manque, une souffrance, et c'est ça qu'on appelle un défaut. C'est la part d'ombre du masque quand l'archétype est trop enfoui en nous. Le tout est de le faire apparaître, de voir le plein dans le creux, comme dans tout le reste de l'accompagnement. Il ne s'agit pas pour autant de s'identifier à un masque. Comme dit Valéria, les masques ne sont pas sept par hasard. J'aimais l'idée que les masques agissent comme les chocs culturels, mais à l'intérieur même des individus.
Complètement, complètement. On est à devoir négocier, accueillir, respecter les différentes parties de nous qui souvent se choquent réciproquement. Et les masques aident énormément à ça. Après, tous nos aspects deviennent vraiment des alliés. Ouais. Et ils s'enrichissent mutuellement de choses qu'on ne pouvait même pas voir avant. Le fait qu'on présente les sept archétypes ouvre directement la possibilité de sentir combien, nous, ces sept archétypes sont présents, mais souvent, vraiment pas assez, pas de façon assez conscientisée. Et dès qu'on commence à travailler un peu avec les masques, il y a cette énorme possibilité qui s'ouvre, qui est vraiment de construire de nouvelles alliances entre nos aspects intérieurs et les faire agir autrement, au service de ce qui nous est le plus cher. Par exemple, résoudre des conflits, construire des espaces de cohésion, et voilà.